nation est devenue la journée de prière pour la vie consacrée. Qu'est-ce qui m'amène à en parler aujourd'hui, en ce jour de la sexagésime? Déjà parce que l'explication de l'évangile a été faite par Jésus lui-même, le sermon est déjà fait. Et d'abord, si je puis dire aussi, enfin ensuite, si je puis dire, l'actualité. De même que l'année 2010 avait été dédiée au sacerdoce, 2015 avait par la volonté du pape à la vie consacrée. Cette actualité, vous le savez, nous touche de près à Saint-Eugène. Hier, Étienne, notre cérémonière émérite, prenait la vie des chanoines de la Mère de Dieu en l'abbaye de la Grâce, commençant ainsi son noviciat. Et était passé, un de ses prédécesseurs dans la fonction faisait profession sainte chez les cardinaux des Chaux d'Aquitaine. Il y a 2 mois, un autre de nos paroissiens devenait postulant chez les bénédictins de Croix-Rouge. Je renonce à citer les noms de tous les anciens clercs de Saint-Eugène, ou anciens paroissiens, qui sont aussi aujourd'hui moines, religieux, séminaristes ou prêtres dans des instituts de vie consacrée. Leurs parents et leurs amis, ici présents, les portent chaque jour dans leur cœur et dans leur prière. Saint-Eugène aborde un lien étroit avec la vie consacrée. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est précisément parce que l'Évangile, je le dis quand même, et son écho dans les livres avec la figure de saint Paul, nous permettent mieux d'en approfondir le mystère. Dans la parabole du semeur, Saint-Luc nous invite tous à être des auditeurs du quatrième type, afin de porter du fruit au centuple. En effet, ceux qui tombent dans la bonne terre, dit-il, ce sont ceux qui ont écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit dans la patience. Et aussitôt, nous vient à l'esprit l'exemple de saint Paul. Non seulement dans ses campagnes apostoliques bien connues et qu'il détaille dans ce passage autobiographique de la deuxième Corinthiens, mais aussi dans cette communion mystique invisible avec Dieu, dont il aime aussi ici un coin du voile, non sans confesser également sa faiblesse, cette mystérieuse échange qui a découlé des litres et des litres d'encre chez les exégètes. Et qui le torture intérieurement. Cela nous rappelle justement l'évangile de la chandeleur, celui que Siméon présente comme la consolation d'Israël, sur l'un de nos trois là-bas, est en même temps signe de division. Glaive qui révèle les pensées secrètes d'un grand nombre, épée qui transperce jusqu'aux jointures les plus intimes de l'âme. Et c'est là que Dieu seul peut accomplir son mystère, le mystère d'un appel. La proximité de Dieu provoque en effet une double crise, prophétique et existentielle. Un signe pour le monde, mais aussi un signe pour soi-même. En un mot, un double appel à la conversion. Par la profession des conseils évangéliques, signe visible d'un attachement préférentiel à Dieu qui anticipe la condition future de tout baptisé, on interpelle le monde dans sa triple aliénation à l'hédonisme, au matérialisme et au subjectivisme, bref, au sexe, à la foi et au pouvoir, comme le rappelait aussi l'évangile de tout à l'heure lors de la troisième explication. Mais en même temps, on fait aussi l'expérience de notre triple faiblesse à cet égard, de notre complicité, ce qui ramène à l'humilité tout en stimulant au combat spirituel. C'est pourquoi le pape actuel dit que l'année de la vie consacrée ne concerne pas seulement les personnes consacrées, mais l'Église tout entière. Et citant le bienheureux Paul VI, il ajoute: sans ce signe concret, la charité de l'ensemble de l'Église risquerait de se refroidir. Le paradoxe scientifique de l'Évangile de s'émousser, le sel de la foi de se diluer. Mais c'est peut-être Saint Jean Paul II qui nous livre dans son exhortation apostolique Vita Consacrata de 1996 l'analyse la plus profonde. La vie consacrée, disait-il, profondément enracinée dans l'exemple et dans l'enseignement du Christ Seigneur, est un don de Dieu, le Père, à son Église par l'Esprit. Grâce à la profession des conseils évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre, obéissant, deviennent visibles au monde de manière exemplaire et permanente, et le regard des fidèles est appelé à revenir vers le mystère du royaume de Dieu qui agit déjà dans l'histoire, mais qui attend de prendre sa pleine dimension de mission. Vous voyez, la vie consacrée et prophétique. En signifiant la présence de Dieu dans le monde, et visiblement, comme la sœur qui est ici, côté épître, elle rappelle aussi que Dieu est la fin de toute chose, le bien suprême qui nous attend éternellement au-delà des voiles de cette existence terrestre. Elle nous indique le chemin qui conduit au Père, et puisque ce chemin n'est autre que le Christ, elle est nécessairement christiforme. Elle est une imitation du Christ, une mise à sa suite, un mouvement d'identification toujours plus intense à celui qui est l'adorateur par excellence du Père. Les consacrés sont comme les trois apôtres emmenés par le Christ sur la montagne pour le contempler dans sa transfiguration, le vitrail qui se trouve au-dessus de l'autel. Comme le dit encore Jean-Paul II, la vie consacrée a le devoir de montrer le Fils de Dieu fait homme comme le terme eschatologique vers lequel tout tend, la splendeur face à laquelle pâlit toute autre lumière, la beauté infinie qui peut seule combler le cœur de l'homme. Il s'agit de reproduire pour soi et pour les autres l'être du Christ en devenant l'icône. Mais ce faisant, le consacré devient aussi une icône de l'Église. Et je cite à nouveau Jean-Paul II, la personne amenée progressivement par la puissance de l'Esprit jusqu'à la pleine configuration avec le Christ reflète en elle un rayon de la lumière inaccessible. Et dans son pèlerinage terrestre, elle chemine jusqu'à la source inépuisable de la lumière. Ainsi, la vie consacrée devient-elle une expression particulièrement forte de l'Église épouse qui, conduite par l'Esprit à reproduire en elle les traits de l'époux, apparaît devant lui tout resplendissant, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée, pour reprendre les termes de saint Paul aux Éphésiens. C'est ce que les moniales mettent particulièrement en lumière par leur fécondité, comme épouse du Christ, comme sainte Thérèse de Jésus, quand nous avons fêté en octobre dernier, souvenez-vous, à Saint-Joseph des Carmes, le 5e centenaire de sa naissance. Cependant, relève le pape, l'événement éclatant de la transfiguration prépare l'autre événement tragique, mais non moins glorieux du calvaire. Et à côté de notre grand vitrail de la transfiguration, reconnaissons-le, les apôtres contemplent tout en étant un peu endormis, nous les retrouvons tout aussi endormis au pied du calvaire dans la vallée de Gethsémani. Si l'appel à la sainteté ne peut être entendu et suivi que dans le silence de l'adoration devant la transcendance infinie de Dieu, il passe aussi par l'ascèse, d'où la fonction libératrice des conseils évangéliques. Ceci en effet, je cite à nouveau Jean-Paul II, doit nous constituer un abondissement de valeurs authentiquement humaines, comme on entend souvent, se présente plutôt comme leur transfiguration. Les conseils évangéliques ne doivent pas être considérés comme une négation la profession de chasteté, de pauvreté et d'obéissance devient un avertissement pour tous afin que ne soient pas sous-estimées les blessures provoquées par le péché originel. Et tout en affirmant la valeur des biens créés, elle les relativise en montrant que Dieu est le bien absolu. Ainsi, tandis qu'ils cherchent à acquérir la sainteté pour eux-mêmes, ceux qui suivent les conseils évangéliques proposent, pour ainsi dire, une thérapie spirituelle à l'humanité, puisqu'ils refusent d'idolâtrer la création et rendent visible en quelque manière le Dieu vivant. Chers amis, vous l'avez compris, la vie consacrée à valeur d'un témoignage sanitaire. Jean-Paul II disait encore, notre monde, dans lequel les traces de Dieu semblent souvent perdues de vue, éprouve l'urgent besoin d'un témoignage prophétique fort de la part des personnes consacrées. Ce témoignage porte d'abord sur l'affirmation du primat de Dieu et des biens à venir, ceux du ciel. Telle qu'elle se révèle, cette affirmation, dans la sequela Christi et dans l'imitation du Christ, chaste, pauvre et obéissant, totalement consacré à la gloire de son Père et à l'amour de ses frères. La vie fraternelle elle-même est une prophétie en acte dans une société qui, parfois à son insu, aspire profondément à une fraternité sans frontières. Cette charité fraternelle est en effet une image de la communion trinitaire qui nous attend au terme de notre histoire dans la vision béatifique. Elle est une révélation de l'être le plus intime du Dieu des chrétiens et qui est là. Qu'en serait-il du monde sans les religieux? S'interrogeait Jean-Paul II au fil. Que l'année de la vie consacrée nous aide à répondre à cette question en percevant mieux leur rôle dans l'Église et dans le monde, eux qui n'ont pas hésité à aimer et à me servir ce monde, vous savez, par toutes les œuvres, y compris pendant les guerres, en exposant leur vie. Vous aurez l'occasion de voir l'exposition de M. Toussaint, qui représente les droits des religions anciens fondateurs. Oui, que deviendrait le monde sans les religieux? Et puisque la cohérence entre l'annonce et la vie confère une force de persuasion particulière à la prophétie qu'il porte, eh bien nous, ici, redoublons de prières pour tous les consacrés, et plus particulièrement pour ceux religieux, religieuses, séminaristes et prêtres, que nous connaissons particulièrement parce qu'ils sont nos amis, parce qu'ils sont nos enfants, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Comme chaque deuxième dimanche du mois, à la suite de la messe, vous pouvez vous retrouver dans les salles Sainte-Cécile pour un moment d'amitié où vous serez chaleureusement accueillis malgré la température, avec en climat une exposition l'engagement des religieux dans la Première Guerre mondiale. À l'occasion de cette exposition, M. Toussaint, qui est en état d'origine, dédicacera des livres et il aura aussi pouvoir présenter certains ouvrages auxquels il a contribué. À la sortie de la messe dans l'autre direction, trois sont partis. Il y aura les clercs de la paroisse qui proposeront quelques pâtisseries pour financer quelques déplacements. SOS distribuera aussi son bulletin trimestriel le mercredi qui vient, quatrième partie d'idée du parcours Alpha. Si vous pensez que les personnes de votre connaissance souhaiteraient, voudraient renouveler leur connaissance de la foi chrétienne et les renouer avec l'Église, invitez-les, venez avec elles mercredi, soit